Sermon prêché à la cathédrale de Chartres sur l'intolérance doctrinale par le cardinal Pie en 1841. Il n'y a qu'un seul Seigneur, qu'une seule foi, qu'un seul baptême. Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 5. Monseigneur, un sage a dit que les actions de l'homme sont les filles de sa pensée, et nous avons établi nous-mêmes que tous les biens comme tous les maux d'une société sont le fruit des maximes bonnes ou mauvaises qu'elle professe. Les vérités dans l'esprit et la vertu dans le cœur sont des choses qui se correspondent à peu près inséparablement. Quand l'esprit est livré au démon du mensonge, le cœur, si toutefois l'obsession n'a pas commencé par lui, est bien prêt de se livrer au démon du vice. L'intelligence et la volonté sont deux sœurs entre lesquelles la séduction est contagieuse. Si vous voyez que la première s'est abandonnée à l'erreur, jetez un voile sur l'honneur de la seconde. C'est parce qu'il en est ainsi, mes frères, c'est parce qu'il n'est aucune atteinte, aucune lésion dans l'ordre intellectuel qui n'ait des conséquences funestes dans l'ordre moral et même dans l'ordre matériel, que nous nous attachons à combattre le mal dans son principe, à le tarir dans sa source, c'est-à-dire dans les idées. 1000 préjugés sont accrédités au milieu de nous. Le sophisme, étonné de s'entendre attaquer, invoque la prescription. Le paradoxe se flatte d'avoir acquis le droit de cité et de bourgeoisie. Les chrétiens eux-mêmes, vivant au milieu de cette atmosphère impure, n'en évitent pas toute la contagion. Ils acceptent trop facilement bien des erreurs. Fatigués de résister sur les points essentiels, souvent de guerre lasse, ils cèdent sur d'autres points qui leur semblent moins importants et ils n'aperçoivent pas toujours, et parfois ils ne veulent pas apercevoir, jusqu'où ils pourraient être conduits par leur imprudente faiblesse. Parmi cette confusion d'idées et de fausses opinions, c'est à nous, prêtres de l'incorruptible vérité, de nous jeter à la traverse et de protester du geste et de la voix. Heureux si la rigide inflexibilité de notre enseignement peut arrêter le débordement du mensonge, détrôner des principes erronés qui règnent superbement dans les intelligences, corriger des axiomes funestes qui s'autorisent déjà de la sanction du temps, éclairer enfin et purifier une société qui menace de s'enfoncer, en vieillissant, dans un chaos de ténèbres et de désordre, où il ne lui serait plus possible de distinguer la nature et encore moins le remède de ses maux. Notre siècle crie « tolérance, tolérance ». Il est convenu qu'un prêtre doit être tolérant, que la religion doit être tolérante. Mes frères, en toute chose, rien n'égale la franchise. Et je viens vous dire sans détour qu'il n'existe au monde qu'une seule société qui possède la vérité et que cette société doit nécessairement être intolérante. Mais avant d'entrer en matière, pour nous bien entendre, distinguons les choses, convenons du sens des mots et ne confondons rien. La tolérance peut être ou civile ou théologique. La première n'est pas de notre ressort, je ne me permets qu'un mot à cet égard. Si la loi veut dire qu'elle permet toutes les religions parce qu'à ses yeux elles sont toutes également bonnes, ou même encore parce que la puissance publique est incompétente à prendre un parti sur cette matière, la loi est impie et athée. Elle professe non plus la tolérance civile, telle que nous allons la définir, mais la tolérance dogmatique. Et par une neutralité criminelle, elle justifie dans les individus l'indifférence religieuse la plus absolue. Au contraire, si, reconnaissant qu'une seule religion est bonne, elle supporte et permet seulement le tranquille exercice des autres, la loi en cela, comme on l'a observé avant moi, peut être sage et nécessaire selon les circonstances. S'il est des temps où il faut dire avec le fameux connétable « une foi, une loi », il en est d'autres où il faut dire comme Fénelon au fils de Jacques II « accorder à tous la tolérance civile, non en approuvant tout comme indifférent, mais en souffrant avec patience ce que Dieu souffre. » Mais je laisse de côté ce champ hérissé de difficultés et m'attachant à la question proprement religieuse et théologique, j'exposerai ces deux principes. Premièrement, la religion qui vient du ciel est vérité et elle est intolérante envers les doctrines. Deuxièmement, la religion qui vient du ciel est charité et elle est pleine de tolérance envers les personnes. Prions Marie de venir à notre aide et d'invoquer pour nous l'esprit de vérité et de charité. Il est de l'essence de toute vérité de ne pas tolérer le principe contradictoire. L'affirmation d'une chose exclut la négation de cette même chose, comme la lumière exclut les ténèbres. Là où rien n'est certain, où rien n'est défini, les sentiments peuvent être partagés, les opinions peuvent varier. Je comprends et je demande la liberté dans les choses douteuses, in dubiis libertas. Mais dès que la vérité se présente avec les caractères certains qui la distinguent, par cela même qu'elle est vérité, elle est positive, elle est nécessaire, et par conséquent elle est une et intolérante, in necessariis unitas. Condamner la vérité à la tolérance, c'est la forcer au suicide. L'affirmation se tue si elle doute d'elle-même, et elle doute d'elle-même si elle laisse indifféremment la négation se poser à côté d'elle. Pour la vérité, l'intolérance, c'est le soin de la conservation, c'est l'exercice légitime du droit de propriété. Quand on possède, il faut défendre, sous peine d'être bientôt entièrement dépouillé. Aussi, mes frères, par la nécessité même des choses, l'intolérance est partout, parce que partout il y a bien et mal, vrai et faux, ordre et désordre. Partout le vrai ne supporte pas le faux, le bien exclut le mal. L'ordre combat le désordre. Quoi de plus intolérant, par exemple, que cette proposition « 2 et 2 font 4 ». Si vous venez me dire que 2 et 2 font 3, ou que 2 et 2 font 5, je vous réponds que 2 et 2 font 4. Et si vous me dites que vous ne contestez point ma façon de compter, mais que vous gardez la vôtre et que vous me priez d'être aussi indulgent envers vous que vous l'êtes envers moi, tout en demeurant convaincu que j'ai raison et que vous avez tort, à la rigueur je me tairai peut-être, parce qu'après tout il m'importe assez peu qu'il y ait sur la terre un homme pour lequel 2 et 2 font 3 ou 5. Sur un certain nombre de questions, où la vérité serait moins absolue, où les conséquences seraient moins graves, je pourrais jusqu'à un certain point composer avec vous. Je serai conciliant si vous me parlez de littérature, de politique, d'art, de sciences agréables, parce qu'en toutes ces choses, il n'y a pas un type unique et déterminé. Là, le beau et le vrai sont plus ou moins des conventions, et au surplus, l'hérésie en cette matière n'encourt d'autres anathèmes que ceux du sens commun et du bon goût. Mais s'il s'agit de la vérité religieuse, enseignée ou révélée par Dieu lui-même, s'il y va de votre avenir éternel et du salut de mon âme, dès lors, plus de transactions possibles. Vous me trouverez inébranlable et je devrai l'être. C'est la condition de toute vérité d'être intolérante, mais la vérité religieuse étant la plus absolue et la plus importante de toutes les vérités, et par conséquent aussi la plus intolérante et la plus exclusive. Mes frères, rien n'est exclusif comme l'unité. Or, entendez la parole de saint Paul. Unus Dominus, una fides, unum baptisma. Il n'y a au ciel qu'un seul Seigneur, Unus Dominus. Ce Dieu dont l'unité est le grand attribut n'a donné à la terre qu'un seul symbole, une seule doctrine, une seule foi, una fides. Et cette foi, ce symbole, il ne les a confiés qu'à une seule société visible, à une seule Église, dont tous les enfants sont marqués du même sceau et régénérés par la même grâce, unum baptisma. Ainsi, l'unité divine, qui réside de toute éternité dans les splendeurs de la gloire, s'est produite sur la terre par l'unité du dogme évangélique, dont le dépôt a été donné en garde par Jésus-Christ à l'unité hiérarchique du sacerdoce. Un Dieu, une foi, une Église. Unus Dominus, una fides, unum baptisma. Un pasteur anglais a eu le courage de faire un livre sur la tolérance de Jésus-Christ, et le philosophe de Genève a dit en parlant du Sauveur des hommes « Je ne vois point que mon divin maître ait subtilisé sur le dogme. » Rien n'est plus vrai, mes frères. Jésus-Christ n'a point subtilisé sur le dogme. Il a apporté aux hommes la vérité, et il a dit « Si quelqu'un n'est pas baptisé dans l'eau et dans le Saint-Esprit, si quelqu'un refuse de manger ma chair et de boire mon sang, il n'aura point de part dans mon royaume. » Je l'avoue, il n'y a point là de subtilité. C'est l'intolérance, l'exclusion la plus positive et la plus franche. Et encore, Jésus-Christ a envoyé ses apôtres prêcher toutes les nations, c'est-à-dire renverser toutes les religions existantes pour établir l'unique religion chrétienne par toute la terre et substituer l'unité du dogme catholique à toutes les croyances reçues chez les différents peuples. Et prévoyant les mouvements et les divisions que cette doctrine va exciter sur la terre, il n'est point arrêté et il déclare qu'il est venu apporter non la paix, mais le glaive, allumer la guerre non seulement entre les peuples, mais dans le sein d'une même famille, et séparer, quant aux convictions du moins, l'épouse croyante de l'époux incrédule, le gendre chrétien du beau-père idolâtre. La chose est vraie, et le philosophe a raison, Jésus-Christ n'a point subtilisé sur le dogme. Le même sophiste dit ailleurs à son Émile, « Moi je fais comme saint Paul, et je place la charité bien au-dessus de la foi. Je pense que l'essentiel de la religion consiste, en pratique, que non seulement il faut être homme de bien, humain et charitable, mais que quiconque est vraiment tel en croit assez pour être sauvé, n'importe quelle religion il professe. » Fin de citation. Voilà certes, mes frères, un beau commentaire de saint Paul, qui dit par exemple que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, de saint Paul qui déclare que Jésus-Christ n'est point divisé, qu'en lui il n'y a pas le oui et le non, mais seulement le oui, de saint Paul qui affirme que, quand par impossible, un ange viendrait évangéliser une autre doctrine que la doctrine apostolique, il faudrait lui dire anathème. Saint Paul, apôtre de la tolérance. Saint Paul qui marche abattant toute science orgueilleuse qui s'élève contre Jésus-Christ, réduisant toutes les intelligences sous la servitude de Jésus-Christ. On a parlé de la tolérance des premiers siècles, de la tolérance des apôtres. Mes frères, on n'y pense pas. Mais l'établissement de la religion chrétienne a été au contraire par excellence une œuvre d'intolérance religieuse. Au moment de la prédication des apôtres, l'univers entier possédait à peu près cette tolérance dogmatique si vantée. Comme toutes les religions étaient aussi fausses et aussi déraisonnables les unes que les autres, elles ne se faisaient pas la guerre. Comme tous les dieux se valaient entre eux, c'était autant de démons, s'ils n'étaient point exclusifs, ils se toléraient. Satan n'est pas divisé contre lui-même. Rome, en multipliant ses conquêtes, multipliait ses divinités, et l'étude de sa mythologie se compliquait dans la même proportion que celle de sa géographie. Le triomphateur qui montait au Capitole faisait marcher devant lui les dieux conquis avec plus d'orgueil encore qu'il ne traînait à sa suite des rois vaincus. Le plus souvent, en vertu d'un senatus consulte, les idoles des barbares se confondaient désormais avec le domaine de la patrie et l'Olympe national s'agrandissait comme l'Empire. Le christianisme, au moment où il apparut, remarquez ceci, mes frères, ce sont des aperçus historiques de quelque valeur par rapport à la question présente, le christianisme, à sa première apparition, ne fut pas repoussé tout d'un coup. Le paganisme se demanda si, au lieu de combattre cette religion nouvelle, il ne devait pas lui donner accès dans son sein. La Judée était devenue une province romaine. Rome, accoutumée à recevoir et à concilier toutes les religions, accueillit d'abord sans trop d'effroi le culte sorti de la Judée. Un empereur plaça Jésus-Christ aussi bien qu'Abraham parmi les divinités de son oratoire, comme on vit plus tard un autre César proposer de lui rendre des hommages solennels. Mais la parole du prophète n'avait pas tardé à se vérifier. Les multitudes d'idoles qui voyaient d'ordinaire sans jalousie des dieux nouveaux et étrangers venir se placer à côté d'elle, à l'arrivée du dieu des chrétiens, tout à coup, poussèrent un cri d'effroi, et secouant leur tranquille poussière, s'ébranlèrent sur leurs autels menacés. Rome fut attentive à ce spectacle, et bientôt, quand on s'aperçut que ce dieu nouveau était l'irréconciliable ennemi des autres dieux, quand on vit que les chrétiens dont on avait admis le culte ne voulait pas admettre le culte de la nation, en un mot, quand on eut constaté l'esprit intolérant de la foi chrétienne, c'est alors que commença la persécution. Écoutez comment les historiens du temps justifient les tortures des chrétiens. Ils ne disent point de mal de leur religion, de leur Dieu, de leur Christ, de leur pratique. Ce ne fut que plus tard qu'on inventa des calomnies. Ils leur reprochent seulement de ne pouvoir souffrir aucune autre religion que la leur. Je ne doutais pas, dit Pline le Jeune, quoi qu'il en soit de leur dogme, qu'il ne fallût punir leur entêtement et leur obstination inflexible. Ce ne sont point des criminels, dit Tacite, mais ce sont des intolérants, des misanthropes, des ennemis du genre humain. Il y a chez eux une foi opiniâtre à leurs principes et une foi exclusive qui condamne les croyances de tous les autres peuples. Les païens disaient assez généralement des chrétiens ce que Cels a dit des juifs, que l'on confondit longtemps avec eux parce que la doctrine chrétienne avait pris naissance en Judée, que ces hommes adhèrent inviolablement à leurs lois, disait ce sophiste, je ne les blâme pas. Je ne blâme que ceux qui abandonnent la religion de leur père pour en embrasser une différente. Mais si les juifs ou les chrétiens veulent se donner les airs d'une sagesse plus sublime que celle du reste du monde, je dirais qu'on ne doit pas croire qu'ils soient plus agréables à Dieu que les autres. Ainsi, mes frères, le principal grief contre les chrétiens, c'était la rigidité trop absolue de leurs symboles et, comme on disait, l'humeur insociable de leur théologie. Si ce n'eût été qu'un dieu de plus, il n'y aurait pas eu de réclamation, mais c'était un dieu incompatible qui chassait tous les autres. Voilà pourquoi la persécution. Ainsi, l'établissement de l'Église fut une œuvre d'intolérance dogmatique. Toute l'histoire de l'Église n'est pareillement que l'histoire de cette intolérance. Qu'est-ce que les martyrs? Des intolérants en matière de foi, qui aiment mieux les supplices que de professer l'erreur. Qu'est-ce que les symboles? Des formules d'intolérance qui règlent ce qu'il faut croire et qui imposent à la raison des mystères nécessaires. Qu'est-ce que la papauté? Une institution d'intolérance doctrinale, qui par l'unité hiérarchique maintient l'unité de la foi. Pourquoi les conciles? Pour arrêter les écarts de la pensée, condamner les fausses interprétations du dogme, anathématiser les propositions contraires à la foi. Nous sommes donc intolérants, exclusif en matière de doctrine. Nous en faisons profession. Nous en sommes fiers. Si nous ne l'étions pas, c'est que nous n'aurions pas la vérité puisque la vérité est une et par conséquent intolérante. Fille du ciel, la religion chrétienne en descendant sur la terre a produit les titres de son origine. Elle a offert à l'examen de la raison des faits incontestables et qui prouvent irréfragablement sa divinité. Or, si elle vient de Dieu, si Jésus-Christ, son auteur, a pu dire « Je suis la vérité »,« Ego sum veritas », il faut bien par une conséquence inévitable que l'Église chrétienne conserve incorruptiblement cette vérité telle qu'elle l'a reçue du ciel même. Il faut bien qu'elle repousse, qu'elle exclue tout ce qui est contraire à cette vérité, tout ce qui la détruirait. Reprocher à l'Église catholique son intolérance dogmatique, son affirmation absolue en matière de doctrine, c'est lui adresser un reproche fort honorable. C'est reprocher à la sentinelle d'être trop fidèle et trop vigilante. C'est reprocher à l'épouse d'être trop délicate et trop exclusive. Nous vous tolérons bien, disent parfois les sectes à l'Église. Pourquoi donc, vous, ne nous tolérez-vous pas? Mes frères, c'est comme si les esclaves disaient à l'épouse légitime, nous vous supportons bien, pourquoi être plus exclusif que nous? Les étrangères supportent l'épouse, c'est une grande faveur, vraiment. Et l'épouse est bien déraisonnable de prétendre seule à des droits et à des privilèges, dont on veut bien lui laisser une part, du moins jusqu'à ce qu'on réussisse à la bannir tout à fait. Voyez donc cette intolérance des catholiques, dit-on souvent autour de nous. Ils ne peuvent souffrir aucune autre église que la leur. Les protestants les souffrent bien. Mes frères, vous étiez dans la tranquille procession de votre maison et de votre domaine. Des hommes armés s'y précipitent, ils s'emparent de votre lit, de votre table, de votre argent. En un mot, ils s'établissent chez vous, mais ils ne vous en chassent pas. Ils poussent la condescendance jusqu'à vous laisser votre part. Qu'avez-vous à vous plaindre? Vous êtes bien exigeant de ne pas vous contenter du droit commun. Les protestants disent bien qu'on peut se sauver dans votre église. Pourquoi prétendez-vous qu'on ne peut pas se sauver dans la leur? Mes frères, transportons-nous sur une des places de cette cité. Un voyageur me demande la route qui conduit à la capitale, je la lui enseigne. Alors, un de mes concitoyens s'approche et me dit, j'avoue que cette route conduit à Paris, je vous accorde cela. Mais vous me devez des égards réciproques, et vous ne me contesterez pas que cette autre route, la route de Bordeaux par exemple, conduise également à Paris. En vérité, cette route de Paris serait bien intolérante et bien exclusive de ne pas vouloir qu'une route qui lui est directement opposée conduise au même but. Elle n'a pas un esprit conciliant. Jusqu'où ne se glisse pas l'envahissement et le fanatisme? Mes frères, et je pourrais céder encore car les routes les plus opposées finiraient par se rencontrer peut-être après avoir fait le tour du globe, tandis qu'on suivrait éternellement le chemin de l'erreur sans jamais arriver au ciel. Ne nous demandez donc plus pourquoi, quand les protestants avouent qu'on peut se sauver dans notre religion, nous nous refusons à reconnaître que, généralement parlant, et hors le cas de la bonne foi et de l'ignorance invincible, on puisse se sauver dans la leur. Les épines peuvent avouer que la vigne donne des raisins, sans que la vigne soit tenue de reconnaître aux épines la même propriété. Mes frères, nous sommes souvent confus de ce que nous entendons dire sur toutes ces questions à des gens sensés d'ailleurs. La logique leur fait entièrement défaut dès qu'il s'agit de religion. Est-ce passion, est-ce préjugé qui les aveugle? C'est l'un et l'autre. Au fond, les passions savent bien ce qu'elles veulent quand elles cherchent à ébranler les fondements de la foi, à placer la religion parmi les choses sans consistance. Elles n'ignorent pas qu'en démolissant le dogme, elles se préparent une morale facile. On l'a dit avec une justesse parfaite, c'est plutôt le décalogue que le symbole qui fait les incrédules. Si toutes les religions peuvent être mises sur un même rang, c'est qu'elles se valent toutes. Si toutes sont vraies, c'est que toutes sont fausses. Si tous les dieux se tolèrent, c'est qu'il n'y a pas de dieu. Et quand on a pu en arriver là, il ne reste plus de morale bien gênante. Que de conscience serait tranquille le jour où l'Église catholique donnerait le baiser fraternel à toutes les sectes ses rivales. L'indifférence des religions est donc un système qui a ses racines dans les passions du cœur humain. Et il faut dire aussi que pour beaucoup d'hommes de notre siècle, il tient aux préjugés de l'éducation. En effet, ou bien il s'agit de ces hommes déjà avancés en âge et qui ont sucé le lait de la génération précédente, ou bien il s'agit de ceux qui appartiennent à la génération nouvelle. Les premiers ont cherché l'esprit philosophique et religieux dans l'Émile de Jean-Jacques, les autres dans l'école éclectique ou progressive de ces demi-protestants et demi-rationalistes qui tiennent aujourd'hui le sceptre de l'enseignement. Jean-Jacques a été parmi nous l'apologiste et le propagateur de ce système de tolérance religieuse. L'invention ne lui en appartient pas, quoiqu'il ait audacieusement enchéri sur le paganisme qui ne poussa jamais aussi loin l'indifférence. Voilà avec un court commentaire les principaux points du catéchisme genevois, devenu malheureusement populaire. Toutes les religions sont bonnes, c'est-à-dire autrement pour le français, toutes les religions sont mauvaises. Il faut pratiquer la religion de son pays, c'est-à-dire que la vérité en matière religieuse dépend du degré de longitude et de latitude. Vérité en deçà des monts, mensonge au-delà des monts. Par conséquent, ce qui est encore plus grave, il faut ou n'avoir aucune religion sincère et faire l'hypocrite, partout ou, si l'on a une religion au fond du cœur, se rendre apostat et renégat quand les circonstances le veulent. La femme doit professer la même religion que son mari et les enfants la même religion que leur père. C'est-à-dire que ce qui était faux et mauvais avant le contrat de mariage doit être vrai et bon après. Et qu'il serait mal aux enfants, des anthropophages, de s'écarter des pratiques estimables de leurs parents. Mais je vous entends me dire que le siècle de l'encyclopédie est passé, qu'une réfutation plus longue serait un anachronisme. À la bonne heure, fermons le livre de l'éducation. Ouvrons à sa place les savants essais qui sont comme la source commune d'où la philosophie du XIXe siècle se répand par mille canaux fidèles sur toute la surface de notre pays. Cette philosophie s'appelle éclectique, syncrétique, et avec une petite modification, elle s'appelle aussi progressive. Ce beau système consiste à dire qu'il n'y a rien de faux, que toutes les opinions et toutes les religions peuvent être conciliées, que l'erreur n'est pas possible à l'homme à moins qu'il ne dépouille l'humanité, que toute l'erreur des hommes consiste à croire, posséder exclusivement toute la vérité, quand chacun d'eux n'en tient qu'un anneau, et que de la réunion de tous ces anneaux doit se former la chaîne entière de la vérité. Ainsi, selon cette incroyable théorie, il n'y a pas de religion fausse, mais elles sont toutes incomplètes l'une sans l'autre. La véritable religion serait la religion de l'éclectisme syncrétique et progressif, laquelle rassemblerait toutes les autres, passées, présentes et à venir. Toutes les autres, c'est-à-dire la religion naturelle qui reconnaît un dieu, l'athéisme qui n'en connaît pas, le panthéisme qui le reconnaît dans tout et partout, le spiritualisme qui croit à l'âme et le matérialisme qui ne croit qu'à la chair, au sang et aux humeurs. Les sociétés évangéliques qui admettent une révélation et le déisme rationaliste qui la repousse, le christianisme qui croit le Messie venu et le judaïsme qui l'attend toujours, le catholicisme qui obéit au pape et le protestantisme qui regarde le pape comme l'antéchrist. Tout cela est conciliable, ce sont différents aspects de la vérité. De l'ensemble de ces cultes résultera un culte plus large, plus vaste, le grand culte véritablement catholique, c'est-à-dire universel, puisqu'il renfermera tous les autres dans son sein. Mes frères, cette doctrine que vous avez tous qualifiée absurde n'est point de ma création. Elle remplit des milliers de volumes et de publications récentes. Et sans que le fond en varie jamais, elle prend tous les jours de nouvelles formes sous la plume et sur les lèvres des hommes, entre les mains desquels reposent les destinées de la France. À quel point de folie sommes-nous donc arrivés? Nous en sommes arrivés, mes frères, là où doit logiquement en venir quiconque n'admet pas ce principe incontestable que nous avons établi, savoir que la vérité est une, et par conséquent intolérante, exclusive de toute doctrine qui est panacienne. Et pour rassembler en quelques mots toute la substance de cette première partie de mon discours, je vous dirai, vous cherchez la vérité sur la terre, cherchez l'Église intolérante. Toutes les erreurs peuvent se faire des concessions mutuelles. Elles sont proches parentes puisqu'elles ont un père commun. La vérité, fille du ciel, est la seule qui ne capitule point. Ô vous donc qui voulez juger cette grande cause, appropriez-vous en cela la sagesse de Salomon. Parmi ces sociétés différentes entre lesquelles la vérité est un objet de litige, comme était cet enfant entre les deux mères, vous voulez savoir à qui l'a jugé. Dites qu'on vous apporte un glaive, feignez de trancher, et examinez le visage que feront les prétendantes. Il y en aura plusieurs qui se résigneront, qui se contenteront de la part qui va leur être livrée. Dites aussitôt, celles-là ne sont pas les mères. Il y en est une au contraire qui se refusera à toute composition, qui dira, la vérité m'appartient et je dois la conserver tout entière. Je ne souffrirai jamais qu'elle soit diminuée, morcelée. Dites, celle-ci est la véritable mère. Oui, Sainte Église catholique, vous avez la vérité, parce que vous avez l'unité et que vous êtes intolérante à laisser décomposer cette unité. C'était là, mes frères, notre premier principe. La religion qui descend du ciel est vérité et par conséquent, elle est intolérante. Quant aux doctrines, il me reste à ajouter, la religion qui descend du ciel est charité, et par conséquent, elle est pleine de tolérance quant aux personnes. Cette fois encore, je ne ferai guère qu'énoncer et n'entreprendrai pas le développement. Respirons un moment. C'est le propre de l'Église catholique, mes frères, d'être ferme et inébranlable sur les principes, et de se montrer douce et indulgente dans leur application. Quoi d'étonnant? N'est-elle pas l'épouse de Jésus-Christ, et comme lui, ne possède-t-elle pas à la fois le courage intrépide du lion et la mansuétude pacifique de l'agneau? Et ne représente-t-elle pas sur la terre la suprême sagesse, qui tente à son but fortement, et qui dispose tout suavement. Ah, c'est à ce signe encore, c'est à ce signe surtout, que la religion descendue du ciel doit se faire reconnaître. C'est au condescendance de sa charité aux inspirations de son amour. Or, mes frères, considérez l'Église de Jésus-Christ et voyez avec quel ménagement infini, avec quel respectueux égard elle procède avec ses enfants, soit dans la manière dont elle présente ses enseignements à leur intelligence, soit dans l'application qu'elle en fait à leur conduite et à leurs actions. Bientôt, vous reconnaîtrez que l'Église, c'est une mère qui enseigne invariablement la vérité et la vertu, qui ne peut jamais consentir à l'erreur ni au mal, mais qui s'industrie à rendre son enseignement aimable et qui traite avec indulgence les égarements de la faiblesse. Souffrez, que je vous communique, mes frères, une impression qui, assurément, ne m'est pas particulière et personnelle, et compte éprouver comme moi tous ceux de mes frères qui se sont livrés avec loisir et réflexion à l'incomparable étude de la science sacrée. Dès les premiers pas qu'il m'a été donné de faire dans le domaine de la sainte théologie, ce qui m'a causé le plus d'admiration, ce qui a parlé le plus éloquemment à mon âme, ce qui m'aurait inspiré la foi si je n'avais eu le bonheur de la posséder déjà, c'est d'une part la tranquille majesté avec laquelle l'Église catholique affirme ce qui est certain, et d'autre part la modération et la réserve avec laquelle elle abandonne aux libres opinions tout ce qui n'est pas défini. Non, ce n'est pas ainsi que les hommes enseignent les doctrines dont ils sont les inventeurs. Ce n'est pas ainsi qu'ils expriment les pensées qui sont le fruit de leur génie. Quand un homme a créé un système, il le soutient avec une ténacité absolue. Il ne cède ni sur un point ni sur un autre. Quand il s'est épris d'une doctrine issue de son cerveau, il cherche à la faire prévaloir avec empire. Ne lui contestez pas une seule de ses idées. Celle que vous vous permettez de discuter est précisément la plus assurée et la plus nécessaire. Presque tous les livres sortis de la main des hommes sont empreints de cette exagération et de cette tyrannie. S'agit-il de littérature, d'histoire, de philosophie, de science, chacun s'érige en oracle, ne veut être contredit en rien. C'est une affirmation perpétuelle. C'est une critique étroite, mesquine, hautaine, absolue. La science sacrée, au contraire, la sainte théologie catholique, offre un caractère tout différent. Comme l'Église n'a point inventé la vérité, mais qu'elle en est seulement dépositaire, on ne trouve point de passion ni d'excès dans son enseignement. Il a plu au Fils de Dieu descendu sur la terre, en qui résidait la plénitude de la vérité. Il lui a plu de dévoiler clairement certaines faces, certains aspects de la vérité, et de laisser seulement entrevoir les autres. L'Église ne pousse pas plus loin son ministère, est contente d'avoir enseigné, maintenu, vengé les principes certains et nécessaires. Elle laisse ses enfants discuter, conjecturer, raisonner librement sur les points douteux. L'enseignement catholique a été tellement calomnié, mes frères, les hommes sont tellement accoutumés à le juger avec leur prévention, que vous croirez difficilement peut-être à ce que je vais vous dire. Il n'y a pas une seule science au monde qui soit moins despotique que la science sacrée. Le dépôt de l'enseignement a été confié à l'Église. Or, savez-vous ce que l'Église enseigne? Un symbole, en 12 articles, qui ne forment pas 12 lignes, symbole composé par les apôtres, et que les deux premiers conciles généraux ont expliqué et développé par l'addition de quelques mots devenus nécessaires. Nous proclamons, nous catholiques, que l'interprétation authentique des Saintes Écritures appartient à l'Église. Or, savez-vous, mes frères, par rapport à combien de versets de la Bible, l'Église a usé de ce droit suprême? La Bible renferme 30 000 versets environ. Et l'Église n'a peut-être pas défini le sens de 80 de ces versets. Le reste est abandonné aux commentateurs, et je puis le dire au libre examen du lecteur chrétien, en sorte que selon la parole de saint Jérôme, les Écritures sont un vaste champ dans lequel l'intelligence peut débattre et se délecter, et où elle ne rencontrera que quelques barrières, çà et là, autour des précipices, et aussi quelques lieux fortifiés où elle pourra se retrancher et trouver un secours assuré. Les conciles sont le principal organe de l'enseignement chrétien. Or, le concile de Trente, voulant renfermer dans une seule et même déclaration toute la doctrine obligatoire, il n'a pas fallu deux pages pour contenir la profession de foi la plus complète. Et si l'on étudie l'histoire de ce concile, on reconnaît avec admiration qu'il était également jaloux de maintenir les dogmes et de respecter les opinions. Il est tel mot que l'Assemblée des Pères a rejeté et auquel elle n'a pas eu de repos qu'elle en ait substitué un autre, parce que sa signification grammaticale semblait dépasser la mesure de la vérité certaine et dérober quelque chose aux libres controverses des docteurs. Enfin, l'incomparable Bossuet ayant opposé aux calomnies des protestants sa célèbre exposition de la foi catholique, il se trouva que cette même Église, que l'on accusait de tyranniser les intelligences, pouvait réduire ces vérités définies et nécessaires dans un corps de doctrine beaucoup moins volumineux que n'étaient les confessions, synodes et déclarations des sectes qui avaient rejeté le principe de l'autorité et qui professaient le libre examen. Or, je le répète, mes frères, ce phénomène remarquable qui ne se trouve que dans l'Église catholique, cette tranquille majesté dans l'affirmation, cette modération et cette réserve dans toutes les questions non définies, voilà, selon moi, le signe adorable auquel je dois reconnaître la vérité venue du ciel. Quand je contemple sur le front de l'Église cette conviction sereine et cette bénigne indulgence, je me jette entre ses bras et je lui dis « Vous êtes ma mère ». C'est ainsi qu'une mère enseigne sans passion, sans exagération, avec une autorité calme et une sage mesure. Et ce caractère de l'enseignement de l'Église, vous le retrouvez chez ses docteurs les plus éminents, chez ceux dont elle adopte et autorise à peu près sans restriction les écrits. Augustin entreprend son immortel ouvrage de la Cité de Dieu, qui sera jusqu'à la fin des âges un des plus riches monuments de l'Église. Il va venger contre les calomnies du paganisme expirant les saintes vérités de la foi chrétienne. Il sent au-dedans de lui bouillonner les ardeurs du zèle. Mais s'il a lu dans les Écritures que Dieu est la vérité, il a lu aussi que Dieu est charité, Deus caritas est. Il comprend que l'excès de la vérité peut devenir le défaut de la charité. Il se met à genoux et il envoie vers le ciel cette admirable prière. Envoyez, Seigneur, envoyez dans mon cœur l'adoucissement, le tempérament de votre esprit, afin qu'entraîné par l'amour de la vérité, je ne perde pas la vérité de l'amour. Et à l'autre extrémité de la chaîne des saints docteurs, entendez ces belles paroles du bienheureux évêque de Genève. La vérité qui n'est pas charitable cesse d'être la vérité. Car en Dieu, qui est la source suprême du vrai, la charité est inséparable de la vérité. Ainsi, mes frères, disait Augustin, disait François de Sales, vous trouverez dans leurs écrits la vérité dans toute sa pureté, et à cause de cela même, toute empreinte de charité et d'amour. Ô prêtre de Carthage, illustre apologiste des premiers âges, j'admire le nerf de votre langage énergique, la puissance irrésistible de votre sarcasme. Mais le dirais-je, sous l'écorce de vos écrits les plus orthodoxes, je cherche l'onction de la charité. Vos syllabes incisives n'ont pas l'accent humble et doux de l'amour. Je crains que vous ne défendiez la vérité comme on défend un système à soi, et qu'un jour, votre orgueil blessé n'abandonne la cause que votre zèle amer avait soutenue. Ah, mes frères, pourquoi Tertullien, avant de consacrer son immense talent au service de l'Évangile, n'a-t-il pas prié le Seigneur comme Augustin, d'envoyer dans son cœur les adoucissements, les tempéraments de son esprit? L'amour l'aurait maintenu dans la doctrine, mais parce qu'il n'était pas dans la charité, il a perdu la vérité. Et vous, ô célèbre apologiste de ces derniers jours, vous dont les premiers écrits furent salués par les applaudissements unanimes de tous les chrétiens, vous le dirai-je, ô grand écrivain, cette logique apparente dans les étreintes de laquelle vous voulez étouffer votre adversaire, ces raisonnements pressés, multipliés, triomphants dont vous l'accablez, tout cela me laisse à désirer quelque chose. Votre zèle ressemble à de la haine. Vous traitez votre adversaire en ennemi. Votre parole impétueuse n'a pas l'onction de la charité ni l'accent de l'amour. Ô notre infortuné frère dans le sacerdoce! Pourquoi faut-il qu'avant de consacrer votre beau talent à la défense de la religion, vous n'ayez pas fait au pied de votre crucifix la prière d'Augustin? Plus d'amour dans votre cœur et votre intelligence n'aurait pas fait une si déplorable défection. La charité vous aurait maintenu dans la vérité. Et si l'Église catholique, mes frères, présente à nos esprits l'enseignement de la vérité avec tant de ménagement et de douceur, ah, c'est encore avec plus de condescendance et de bonté, qu'elle applique ses principes à notre conduite et à nos actions. Incapable de supporter jamais les doctrines mauvaises, l'Église est intolérante sans mesure pour les personnes. Jamais elle ne confond l'erreur avec celui qui l'enseigne, ni le péché avec celui qui le commet. L'erreur, elle la condamne, mais l'homme, elle continue de l'aimer. Le péché, elle le flétrit, mais le pécheur, elle le poursuit de sa tendresse. Elle ambitionne de le rendre meilleur, de le réconcilier avec Dieu, de faire entrer dans son cœur la paix et la vertu. Elle ne fait point exception de personne. Il n'y a pour elle ni juif, ni grec, ni barbare. Elle ne s'occupe point de vos opinions. Elle ne vous demande pas si vous vivez dans une monarchie ou dans une république. Vous avez une âme à sauver, voilà tout ce qu'il lui faut. Appelez-la, elle est à vous. Elle arrive les mains pleines de grâce et de pardon. Vous avez commis plus de péchés que vous n'avez de cheveux sur la tête, cela ne l'effraie point. Elle efface tout dans le sang de Jésus-Christ. Quelques-unes de ses lois sont pour vous trop onéreuses. Elle consent à les accommoder à votre faiblesse. Leur rigueur cède devant votre infirmité, et l'oracle de la théologie, saint Thomas, pose en principe que si nul ne peut dispenser de la loi divine, la condescendance au contraire ne doit pas être trop difficile dans les lois de l'Église, à cause de la suavité qui fait le fond de son gouvernement. Aussi, mes frères, quand la loi civile est rigide et inflexible, autant la loi de l'Église est souple et pliable. Quelle autre autorité sur la terre gouverne, administre comme l'Église? Ah, que le monde qui nous prêche la tolérance soit donc aussi tolérant que nous. Nous ne rejetons que les principes, et le monde rejette les personnes. Que de fois nous absolvons, et le monde continue de condamner. Que de fois, au nom de Dieu, nous avons tiré le voile de l'oubli sur le passé, et le monde se souvient toujours. Que dis-je? Les mêmes bouches qui nous reprochent l'intolérance nous blâment de notre bonté trop crédule et trop facile, et notre inépuisable patience envers les personnes est presque aussi combattue que notre inflexibilité contre les doctrines. Mes frères, ne nous demandez donc plus la tolérance par rapport à la doctrine. Encouragez au contraire notre sollicitude à maintenir l'unité du dogme, qui est le seul lien de la paix sur la terre. L'orateur romain l'a dit, l'union des esprits est la première condition de l'union des cœurs. Et ce grand homme fait entrer dans la définition même de l'amitié l'unanimité de pensée par rapport aux choses divines et humaines. Notre société, mes frères, est en proie à 1000 divisions. Nous nous en plaignons tous les jours. D'où vient cet affaiblissement des affections, ce refroidissement des cœurs? Ah, mes frères, comment les cœurs seraient-ils rapprochés là où les esprits sont si éloignés? Parce que chacun de nous s'isole dans sa propre pensée, chacun de nous se renferme aussi dans l'amour de soi-même. Voulons-nous mettre fin à ces dissidences sans nombre, qui menacent de détruire bientôt tout esprit de famille, de cité et de patrie? Voulons-nous n'être plus les uns pour les autres que des étrangers, des adversaires et presque des ennemis? Revenons à un symbole, et nous retrouverons bientôt la concorde et l'amour. Tout symbole concernant les choses ici-bas est bien loin de nous. 1000 opinions nous divisent, et il n'y a plus de dogme humain depuis longtemps. Et je ne sais s'il s'en reconstituera jamais un parmi nous. Heureusement, le symbole religieux, le dogme divin s'est toujours maintenu dans sa pureté entre les mains de l'Église, et par là un germe précieux de salut nous est conservé. Le jour où tous les Français diront « Je crois à Dieu, à Jésus-Christ et à l'Église ». Tous les cœurs ne tarderont pas à se rapprocher, et nous retrouverons la seule paix vraiment solide et durable, celle que l'apôtre appelle la paix dans la vérité. Ainsi soit-il.